RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Et bonjour Louis Amar, welcome back.
Merci beaucoup, bonne année à la une. Mais ce dimanche, le rallye raid, le coup de sang de Daniel Elena et les déboires de Sébastien Loeb sur le Dakar. On en parle dans un instant avec Antoine Grenapin depuis le Pérou. Et puis l'Africa Eco Race s'achève. Jean-Louis Schlesser, le patron de l'épreuve, sera notre invité. Enfin à 13h45, Radio Paddock, les dernières nouvelles de la F1 et une révolution de palais chez Ferrari. Vous écoutez RMC, vous regardez RMC Sport News. C'est parti pour Motors.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droitier, droite 120.
Le briefing.
Toujours pas, Sébastien Loeb et Daniel Elena n'y arrivent toujours pas. Quatrième participation au Dakar pour ce couple nonuple, le champion du monde des rallyes. À mi-parcours, Loeb et Elena sont cinquième du classement général à 40 minutes du leader Nasser Al Attiyah. On va retrouver Antoine Grenapin au Pérou dans quelques minutes et évoquer la polémique qui a agité le bivouac cette semaine au sujet des roadbooks. Mais d'abord, Jean-Luc, à ton avis, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Dakar que Loeb ait tant de mal? Est-ce que ça prouve finalement la difficulté de l'épreuve?
Bien sûr, Louis. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'ils viennent participer au Dakar. Et tu sais que nous l'évoquerons tout à l'heure, bien sûr, dans Radio Paddock. Il y a peut-être d'autres très grands champions, déjà champions du monde dans d'autres disciplines du sport automobile, qui pourraient venir participer au Dakar. Donc, c'est vraiment formidable que Loeb et Elena viennent risquer, non pas leur réputation, on la connaît, leur réputation, mais viennent prendre, en tout cas, tous les risques sur le Dakar spécifiquement. Alors, est-ce que c'est une surprise? Oui et non. Oui, parce que le Dakar, normalement, titre aussi des pilotes venus d'autres disciplines. Ben, on peut citer Stéphane Peter Hansel qui vient de la moto. Tu me diras, c'est encore du rallye raid. On peut citer donc d'autres pilotes, même Al Attiyah au départ. Même si c'est un pilote de sable, il a piloté dans d'autres disciplines du sport mécanique. Maintenant, le fait qu'il rencontre des difficultés, notamment de navigation, c'est aussi vieux que le Dakar. Là, je peux te dire, pour suivre ça, et tu le sais depuis l'origine, ça a toujours existé. Les erreurs de roadbook, ça fait partie du jeu. Oui, le terrain parfois ne ressemble pas exactement à ce qui est prévu pendant les reconnaissances parce que le terrain bouge, les dunes bougent, etc. Même si aujourd'hui il y a tout l'arsenal des points, des GPS sur lesquels il faut passer, ce que évidemment nous ne connaissions pas à l'époque de Thierry Sabine et de l'Afrique. Mais bon, ça fait partie du jeu. Effectivement, il faut composer avec ça.
Mais est-ce que, si on prend le problème à l'inverse, est-ce que ça aurait été, à ton avis, une sorte de camouflet pour le Dakar si Sébastien Loeb avait réussi à s'y imposer sans coup férir? D'ailleurs, à sa première participation, après la première semaine de course, il était en tête du rallye et on se disait, c'est presque trop facile pour un pilote de son acabit.
Alors pour le coup, il faut parler du tracé, il faut parler du parcours. Ça n'était un secret pour personne que cette année-là, les premières épreuves, les premières spéciales du Dakar ressemblaient à des spéciales du WRC.
C'était tu sais en Argentine en 2016.
Exactement. Tu sais qu'il y a une épreuve en Argentine et les premières spéciales étaient très rapides. On pouvait avoir des notes quasiment virage par virage et ça, ils se sont pas gênés pour faire des recos, etc. Donc ils avaient tous les éléments. On sait que c'est l'un, nonuple champion du monde. C'est l'équipage le plus rapide du monde, en tout cas pendant une dizaine d'années sur le WRC. Il n'y avait pas de surprise à les voir très rapides sur des épreuves taillées pour eux. Et en plus avec la meilleure équipe du moment. Donc maintenant, ils sont en privé cette année. Et il faut leur reconnaître là aussi ce courage. Hein. C'est une Peugeot, mais il y a deux ans, engagée par une équipe privée. Ils se battent, ils font ce qu'ils peuvent, avec les aléas du Dakar. Et notamment avec ces dunes de sable qu'il faut franchir. C'est peut-être pas la partie que Sébastien Loeb préfère. Ni Daniel Elena en termes de navigation d'ailleurs.
On va accueillir Antoine Grenapin en direct du Pérou dans quelques instants. Juste avant, Jean-Luc, qu'est-ce que tu retiens de cette première semaine de course sur le Dakar? Est-ce qu'il te plaît ce Dakar-là?
On l'évoquait dans les grandes gueules, tu le sais, il y a un instant, ça ne sera certainement pas la plus grande édition du Dakar pour toutes les raisons évoquées. La première étant qu'il n'y a qu'un seul pays qui sert de terrain de jeu et c'est la première fois parmi les 41 éditions du Dakar. C'est dommage, c'est regrettable, c'est tout ce qu'on veut. On sait bien que les organisateurs n'avaient pas le choix pour le coup, puisque tu sais que le Dakar aussi, il y a d'énormes contraintes, non seulement environnementales, puisque je rappelle aussi à chaque fois que le tracé est défini en totale collaboration avec les autorités locales. Donc on évite certaines zones, ça devient de plus en plus compliqué, premièrement. Deuxièmement, il y a une notion d'argent, puisque les pays qui reçoivent le Dakar doivent payer, doivent mettre en place la sécurité. C'est une énorme organisation. On l'a évoqué il y a un instant également. L'Argentine a servi longtemps de plateforme majeure pour le Dakar en Amérique du Sud. On allait également, on a été jusqu'en Bolivie, on a été au Chili, on allait au Pérou. C'est vrai que le Brésil, par exemple, a été abordé à plusieurs reprises, mais tu sais, tu connais un petit peu, évidemment, le paysage du Brésil, c'est très difficile d'y implanter le Dakar. Pour être clair et complet, Thierry Sabine y avait pensé à l'époque. Il avait même fait un premier voyage de pré-reconnaissance en Amérique du Sud, et centré sur le Brésil, et il y avait renoncé, puisque le terrain ne s'y prêtait pas. Donc oui, ça n'est pas la plus grande édition du Dakar, ça, il faut être, bon, c'est une évidence absolue. Espérons que dès l'an prochain, on retrouvera plus d'aventures, je dirais, et des parcours différents.
13h10, Motors, en direct sur RMC et sur RMC Sport News. On accueille notre premier invité, le journaliste Antoine Grenapin, qui couvre le Dakar. Il est en direct depuis le Pérou. Salut Antoine.
Salut Louis, bonjour à tous.
Merci d'être Antoine. Avec nous Antoine. D'abord, où es-tu exactement au Pérou? Raconte-nous ce que tu vois, fais-nous rêver avec une carte postale de ce qui t'entoure.
Alors vous connaissez messieurs l'ambiance du Dakar ici à Arequipa, c'est la deuxième ville du Pérou. On est sur une base militaire, c'est assez classique hein, depuis que le Dakar est en Amérique latine, une base militaire où les équipes techniques sont installées depuis trois jours. Arequipa, deuxième ville du pays. Alors c'est assez rigolo parce qu'on peut penser que le Dakar est toujours sur des bivouacs où il fait chaud, où on est entouré par du sable. Ici c'est pas vraiment le cas, on est à 2300 mètres d'altitude, 15 degrés seulement. Les shorts et les t-shirts ont été remplacés par des pulls ou par des pantalons, mais c'est pas pour ça que les concurrents apprécient le lieu et partent d'ici pour la sixième étape.
Il fait un peu froid sous la tente la nuit.
Il fait un peu froid sous la tente. Vous avez totalement raison, Louis.
Antoine, après une semaine de course, alors on l'a dit, le Dakar ne traverse qu'un seul pays cette année, le Pérou. Quelle est l'ambiance? Est-ce que tu as pu constater un engouement à Lima, par exemple, pour le départ au Pérou en général depuis une semaine autour de ce Dakar-là?
Alors, vous le savez, hein, depuis que le Dakar est en Amérique latine, ici on est en pleine vacances, c'est l'été. Il faut savoir que le Dakar ici a des allures de Tour de France. On a des milliers de personnes sur la route et on constate d'autant plus au Pérou. Il y a une vraie fierté ici au Pérou d'organiser l'événement. C'est aussi pour la première fois au Pérou l'occasion pour ce pays de démontrer qu'ils peuvent accueillir un événement d'envergure internationale et il y a un vrai plaisir, il y a un vrai engouement autour de l'événement.
Alors on rappelle le classement dans la catégorie auto après 5 spéciales terminées, c'est Nasser Alatia qui est en tête, Stéphane Peter Hansel et David Castera sont en deuxième position, Sébastien Loeb pour l'instant cinquième à 40 minutes de la tête de course. Juste avant qu'on t'entende Jean-Luc sur le roadbook gate, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, sur ce qui s'est passé cette semaine, Antoine, est-ce que justement tu peux nous rappeler les faits, nous rappeler cette polémique qui a agité le bivouac au cœur de la semaine?
On est à la troisième étape, Louis, kilomètre 177 sur le roadbook. Sébastien Loeb est en tête, c'est lui qui ouvre la piste. Et là, il se perd, il jardine, il perd une quarantaine de minutes. En fait, il cherche un waypoint, un point de passage. Alors, ça arrive assez souvent. Le problème, c'est que le roadbook n'était pas exactement véridique. C'est ce qu'a critiqué Sébastien Loeb, puis Daniel Elena. Et vous avez raison de parler de polémique parce qu'on n'a jamais entendu Daniel Elena aussi énervé contre les organisateurs. Ils ont fait une lettre au commissaire de course sans non recevoir de leur part Loeb et Elena, qui ont menacé pendant toute la soirée de quitter le Dakar avant de reprendre la piste. Et à ce moment-là, ils ont survolé l'étape. C'était la cinquième, c'était juste avant l'étape de repos. Grosse polémique sur le Dakar et sentiment très partagé chez les pilotes. On a du mal à prendre position pour ou contre sur cette affaire.
Dans un instant, Jean-Luc, je veux ton avis sur cette polémique. Mais d'abord, écoutez la colère de Sébastien Loeb.
On perd 30 minutes ou 20, 25 minutes, je ne sais même pas exactement combien, mais on perd beaucoup de temps à chercher un waypoint qui sur une note qui est fausse. Ouais. C'est tout. À un moment donné, à ce moment-là, si c'est faux, c'est faux. Alors tu assumes que c'est toi qui as fait l'erreur. Et les gens ne se pénalisent pas, les motards sont perdus, tout le monde était paumé, ça tournait de partout. Alors ceux qui sont passés, ok, il y en a qui sont passés, ils ont eu la chance parce qu'ils sont allés un peu plus loin dans la connerie que nous. Mais nous aussi le waypoint doit s'ouvrir à un point donné. Si un kilomètre après le waypoint n'est toujours pas ouvert, on se dit qu'on est faux.
Jean-Luc, il n'y a jamais beaucoup de sourire dans la voix de Sébastien Loeb, on va pas se mentir.
Pas vraiment.
Mais là, encore moins, est-ce que tu comprends sa colère? Et surtout, est-ce que tu penses que ce temps perdu aurait dû lui être recrédité?
Alors, je comprends parfaitement sa colère. là aussi, nous l'évoquions tout à l'heure, ça fait partie intégrante du Dakar. C'est comme ça. Ça ne peut pas être un rallye de championnat du monde. Il faut bien qu'ils le sachent. Hein. Ils viennent d'une autre... Alors, je sais, on peut trouver ça inadmissible. Moi-même, je vais dire modestement, je me suis énervé tellement fort des fois à l'arrivée du Dakar avec le roadbook de Thierry Sabine, j'ai eu envie de le prendre au callback, parfois c'était pas loin, je l'ai assassiné, je lui ai dit tous les noms d'oiseaux, et la différence c'est que bah à l'époque effectivement, il y avait peut-être plus d'aventures, il y avait beaucoup plus d'imprévus, et au bout de 5 minutes, il m'expliquait et puis je disais bah oui, t'as raison, mais les paysages étaient magnifiques. Donc c'est vrai que j'étais pas là pour gagner le rallye non plus, j'étais là pour vivre des aventures. Alors je comprends, c'est légitime que Sébastien Loeb et Daniel Elena soient irrités. Maintenant, ça fait partie intégrante du Dakar. Et je vais te dire, là, sur cette troisième étape, ce que Antoine nous rappelait, bah, ça les a frappés eux parce qu'ils étaient en tête. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et il faut accepter ce type d'aléa, même si c'est dur, même si ça fait perdre le rallye. Je crois qu'il n'y a pas un vainqueur du rallye Dakar qui n'a pas été confronté à cette situation dans le passé. D'ailleurs, Antoine, je pense que c'est ce qui se disait sur le paddock. Là aussi, on ne peut pas crucifier les organisateurs parce qu'il y a eu une erreur quelque part. Alors, faut peut-être rappeler ce que c'est qu'un waypoint. Hein, ça, c'est nouveau par rapport, on va dire, à l'époque africaine. Ce sont des points très précis, GPS, où les concurrents sont obligés de passer pour déclencher effectivement la balise. À notre époque, tu vois, c'était les coups de tampon sur un carton. Ça n'avait rien à voir.
Antoine.
Ouais, vous avez totalement raison. Alors, il faut, pour être bien précis, c'est une case du roadbook. Donc, ce que lit Daniel Elena à Sébastien Loeb. Et sur cette case, il y avait un pylône. On est en plein milieu du désert. Ce pylône est vraiment mal placé. Les organisateurs, hein, d'après nos informations, attestent que le pylône n'était pas exactement placé dans la case du roadbook. Après, on est sur du hors-piste. Et les copilotes les plus expérimentés du Rally Raid savent et le disent. On a l'habitude d'avoir parfois des petites approximations. Le problème, c'est que Daniel Elena, lui, est habitué à des roadbooks très précis, ceux du WRC, qui sont des condensiens de 15 km. Ici, on est sur des centaines de kilomètres. Ça a été très mal interprété, la colère de Daniel Elena. Pour vous résumer, la seule personne qui s'est aussi trompée, c'est Cyril Després. Les autres pilotes ont remarqué l'erreur, mais ont réussi, grâce à leur vision, grâce à une façon un petit peu plus globale d'anticiper l'erreur, à pouvoir passer au travers. La colère de Daniel Elena ici est assez mal interprétée, messieurs.
Et voilà, pour compléter, Louis, juste un mot, vas-y. C'est que l'équipier de Cyril Després, qu'évoquait à l'instant Antoine, eh bien c'est Jean-Paul Cotteret, l'un des plus grands copilotes que le Dakar ait jamais connu, qui était l'habituel copilote de Stéphane Peter Hansel. Ils sont pas fâchés, hein. C'est pour des raisons conjoncturelles qu'ils ne sont pas ensemble. Donc si Jean-Paul s'est fait piéger aussi, effectivement, ça cautionne quelque part Daniel. Bah il faut mettre son mouchoir par-dessus, puis faire ce qu'ils ont fait, et puis continuer à attaquer, voilà.
En partie à cause de cette erreur de navigation, Sébastien Loeb est donc cinquième ce midi du Dakar à 40 minutes du leader Nasser Al Attiyah. Une petite erreur de navigation qui n'a vraiment pas dû virer au moment d'établir le bilan de cette première partie de Dakar.
Mais non, c'est que si on s'était pas fait niquer 30 minutes roadbook, on serait bien. C'est que là, on est un peu moins bien. Donc voilà, mais toujours là. Après, l'écart, il est important, mais la deuxième semaine sera compliquée. Donc il peut encore se passer plein de choses. C'est plutôt bien passé, hein. On a réussi à franchir les dunes compliquées, on a réussi toujours à plutôt bien s'en sortir pour l'instant. Donc, on sait aussi qu'après-demain, on va ouvrir la spéciale dans mes dunes favorites. Donc, on verra après ça.
Ouais. Alors ça, c'était à l'issue de la dernière spéciale. Donc après-demain, c'est aujourd'hui, déjà, magie de la radio et de la télévision. L'étape dont parle Sébastien Loeb, c'est celle d'aujourd'hui, Antoine. Et c'est une étape dans les dunes de Tanaka qui avait été fatale à Loeb l'an dernier sur le Dakar.
Ouais, on rappelle, hein, fatale à Loeb et Elena qui s'étaient trouvés dans une ornière, qui avait bloqué leur Peugeot. C'est très délicat, il y a beaucoup dunes. On a l'habitude de dire sur le Dakar, hein, qu'un kilomètre dans les dunes vaut double, et c'est à peu près ce qui va se passer pendant toute la journée pour les pilotes. C'est une des étapes essentielles et elle sera clé dans la victoire finale de Dakar.
Jean-Luc, ça se rattrape 40 minutes ou on s'oriente vraiment vers un duel à la Tia Peter Hansel?
Ah, ça peut, si c'est le Dakar, si c'est un vrai Dakar jusqu'au bout. Et les organisateurs l'ont dit, hein, Étienne Lavigne a dit attention, la deuxième semaine va être encore plus terrible que la première.
Bon, ils disent un peu tout le temps ça, hein.
Bah, ils disent tout le temps ça, mais j'espère que ça va être vrai. Alors juste un petit mot, et c'est un trait d'humour, hein. Ça m'amuse d'entendre Seb Loeb qui dit si on n'avait pas perdu 30 minutes, on serait mieux classé. Ça rappelle Johnny Hallyday, ça rappelle le pauvre. Voilà, tout le monde lui était tombé dessus parce qu'il s'était garé 10 minutes avec René Medj. Il avait dit si on n'avait pas paumé 10 minutes, on serait 10 minutes devant.
C'était 1h15. Il a dit si on n'avait pas perdu 1h15, on serait arrivé depuis 1h15.
Bon, c'est la même en couleur, si tu veux, mais c'est logique. Ça, c'est la logique absolue. Alors écoute, j'espère, oui, que tout peut être remis en question. Puis tu sais, ça aussi, c'est le Dakar. On a vu des retournements de situation incroyables parmi les 4 équipages qui sont devant lui. On vient de l'évoquer avec toi et Antoine. Il y a Nasser Al Attiyah, Mathieu Bommel, qui sont évidemment déjà double vainqueurs du Dakar et extrêmement expérimentés. Il y a Peter Hansel et David Castera, qui est un ancien motard aussi, qui est organisateur du Rallye du Maroc, qui sont des types très solides. Et puis après, il y a Nani Roma, qu'il faut surtout pas oublier, qui était vainqueur à moto également. Et il y a Jakub Prigonski, c'est un peu plus difficile à prononcer, mais lui aussi, il a une belle expérience. Mais ces gens-là peuvent casser, peuvent s'égarer, peuvent se planter dans une dune de sable. Donc, rien n'est perdu pour le Belena.
Pour l'instant, Monsieur Dakar, Stéphane Peter Hansel, est en embuscade derrière Nasser Al Attiyah. Pour lui, écoutez-le, rien n'est joué.
Là, c'était pas très agréable, ces deux jours qu'on vient de faire. C'était des trucs de fèche-fèche, des trucs rapides en hors-piste avec des grosses saignées. Enfin, c'était stressant et pas très agréable. Les jours qui vont arriver dans les dunes, je pense qu'ils vont être plus intéressants. Peut-être je me trompe, mais enfin, en tout cas, il peut se passer encore beaucoup de choses. Hein. Il peut se passer il peut avoir des tankages, des plantages, perdre beaucoup de temps. On peut pas dire que la course est pliée. Mais on n'est pas dans une position super avantageuse.
Voilà, Stéphane Peter Hansel qui évidemment ne renonce pas à croire encore à cette victoire sur le Dakar 2019. On va parler également, messieurs, des motos. Antoine, faisons un point sur le classement de la catégorie moto, avec notamment deux Français qui brillent. Il y en a deux dans le top 10, deux qui peuvent encore prétendre à la victoire finale quasiment.
Totalement, le premier c'est Adrien Van Baveren, trois fois vainqueur de l'Enduropal au Touquet. Il est à 6 minutes du leader Ricky Brabec. Adrien Van Baveren qui fait la course parfaite, un petit peu attentiste, il faut être attentiste. Hein. On rappelle que sur le Dakar, mieux vaut jouer le général plutôt que la victoire d'étape. Et le deuxième, c'est son coéquipier Xavier de Soultrey. Il est aussi chez Yamaha. Xavier de Soultrey, vainqueur de la troisième étape, sa première victoire d'étape sur un Dakar. Il a terminé deuxième vendredi dernier. Il fait partie de ces six pilotes à être à 10 minutes du leader au général et à pouvoir viser la victoire.
Jean-Luc, c'est beau ce que fait Adrien Van Baveren, parce qu'en plus il relève d'une blessure qu'il a tenue éloignée des pistes pendant longtemps cette année.
Ah bah écoute, c'est absolument génial, et on évoquait là aussi dans les GG peut-être le manque d'intérêt du Dakar auprès du public français. Alors c'est dû au décalage horaire, à l'éloignement, au fait qu'on ne traverse plus la France, évidemment, comme c'était le cas avant. Mais c'est vrai que s'il y a un pilote français particulièrement à moto, puisque là aussi les héros ce sont les motards, hein, qui pilotent et qui naviguent à la fois, ce qui est extrêmement délicat, si Adrien Van Baveren, qui est un des rois de la silice comme on dit, puisqu'il a remporté l'enduro du Touquet à plusieurs reprises avec sa Yamaha. D'ailleurs, je me permets de souligner que dans les 5 premiers pilotes classés, il y a une Honda, celle de Ricky Brabec, on va sûrement y venir. Il y a une KTM, celle de Sunderland, qui a déjà été vainqueur également. Et puis il y a une Husqvarna, celle de Quintanilla, la KTM et la Yamaha. Donc il y a 4 marques différentes en 5 places.
Bah venons-y justement, Jean-Luc, parce que effectivement c'est une concurrence accrue et qui donne de l'intérêt à cette course en moto.
Écoute, les motards, une nouvelle fois, là c'est une escadrille en fait, hein, ils l'ont dit, avec les problèmes de navigation auxquels sont confrontés évidemment également les pilotes moto. On rappelle que les pilotes moto, souvent, ils ouvrent la piste, ils sont devant, ils partent devant, donc la navigation est encore plus difficile, même s'il y a des différences, et moi personnellement je le regrette, entre le parcours réservé aux motos et le parcours réservé aux autos et camions, parce que le grand charme du Dakar c'était ça, c'était ce mélange total de genres. On passait exactement sur les mêmes pistes. Bref, on en revient à cette course. C'est vrai que celui qui ouvre la piste, eh bien, il cherche un petit peu sa voie. Donc parfois, il est amené à ralentir pour être sûr d'être sur la bonne route. Et ça permet au pilote parti une ou deux minutes derrière de le ramarrer, de le rattraper. Et après, ça peut être un grand prix des sables. Hein. C'est ce que les pilotes moto, je crois, ont souligné. Antoine, d'ailleurs, dans les premières spéciales, ils ont roulé beaucoup ensemble. Hein.
Vous avez totalement raison, et le fait qu'il y ait autant de navigation fait que les pilotes ont un peu d'appréhension à ouvrir la piste, donc à gagner l'étape précédente. Pour faire simple, chez les motos, ce qui est assez saisissant, c'est qu'il y a rarement eu aussi peu d'abandon. Seulement 2 des favoris ont abandonné depuis le début du Dakar, Juan Barré d'abord et Paulo Goncalves. Et puis, il faut rappeler que c'est très indécis. Les trois derniers vainqueurs en moto sont trois pilotes différents, alors que dans les 11 années qui ont précédé, ils étaient seulement deux à avoir remporté la catégorie moto. Ça n'a jamais été aussi ouvert que ça l'est cette année.
Antoine, une dernière question avec toi en direct du Pérou. Quel est le profil de la semaine qui arrive? Quelles sont les dernières difficultés auxquelles vont être confrontés les pilotes?
Alors c'est assez saisissant, on a eu les deux dernières étapes qui étaient composées avec beaucoup de fêche-fêche, qui est un cauchemar pour les concurrents. Et là on va retourner
Qu'est-ce que c'est du fêche-fêche?
Quelque chose d'un petit peu plus classique.
Qu'est-ce que c'est du fêche-fêche, Antoine?
Je n'entends plus.
Qu'est-ce que c'est du fêche-fêche, Antoine?
Alors le fêche-fêche, c'est une poussière de sable très très meuble, très très volatile. En gros, on s'enfonce très facilement dessus. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Pour vous résumer la chose, c'est Romain Leloup, qui est un concurrent Malmoto, qui me disait hier. En gros, c'est comme si vous imaginez un terrain de pétanque rempli de farine et il faut rouler avec. C'est très très compliqué de pouvoir rouler avec. Donc ça, c'était ce qu'avaient les pilotes la semaine dernière. Cette semaine, c'est plus classique. On a beaucoup de zones de dunes, de zones de sable. Pour faire très simple, c'est exactement le terrain qui convient chez les autos à Nasser Al Attiyah.
Merci beaucoup Antoine Grenapin d'avoir été avec nous en direct.
Salut,
du Pérou. Belle fin de Dakar à toi et à très vite sur RMC. Dans un instant, Motors revient pour parler d'un autre rallye raid qui ne s'appelle pas le Dakar mais qui s'achève à Dakar. Allez comprendre, à tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC 13h-14h Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h27 sur RMC et sur RMC Sport News, vous écoutez Motors. On est avec Jean Lecroix. À 14h, vous trouverez l'intégral sport avec Christophe Cessieux. Ne manquez pas dans quelques minutes Radio Paddock. Engil Ouattara sera avec nous pour nous donner les dernières nouvelles, notamment de la F1. Beaucoup de changements, ça concerne la Scuderia Ferrari. Un nouveau patron s'est installé à la tête de l'écurie la plus prestigieuse du monde cette semaine. Mais d'abord, Jean-Luc, on continue nos aventures de rallye raid, après le Pérou l'Afrique, après le Pérou le Sénégal et l'Africa Race qui s'achève aujourd'hui. T'as suivi cette Africa Race, Jean-Luc?
Ah oui, bien sûr, je l'ai suivi quotidiennement, effectivement. Bah, tu sais, ce sont des régions qu'on a bien connues avec le Dakar, justement, puisqu'on l'évoquait il y a un instant avec toi et avec Antoine, quand le Dakar était en Afrique. Et c'est vrai que Jean-Louis Schlesser, qui lui-même a remporté le Dakar et les premières éditions de l'Africa Eco-Race, s'est mué en organisateur avec la complicité et le travail de René Medge, qui lui aussi a été double vainqueur du Dakar. C'était au début des années 80, ça ne nous rajeunit pas. Et ce sont des gens qui connaissent parfaitement bien l'Afrique, et il est encore possible, heureusement, de tracer quelques pistes au milieu de cette magnifique Afrique et notamment en Mauritanie.
Et quel regard tu portes, Jean-Luc, sur cette course de manière générale? C'est pas un rallye raid au rabais, ça n'est pas un sous-Dakar?
Non, il faut surtout pas dire ça, c'est différent. Jean-Louis, nous avions eu dans Motors, avant le départ, nous expliquait que c'est une épreuve qui est peut-être, j'ose le dire, plus convivial, moins professionnel. D'ailleurs, quand on va parler du palmarès et des vainqueurs, on ne les connaît pas dans le grand public. Pour beaucoup, ce sont des passionnés, soit qui rêvaient du Dakar, mais qui est devenu inaccessible en Amérique du Sud, soit pour certains qui avaient participé au Dakar en Afrique, qui sont nostalgiques de ces magnifiques régions africaines. Et puis, l'Africa Eco-Race ne veut pas concurrencer le Dakar. Simplement, puisque le Dakar est parti sous d'autres horizons, eh bien, intelligemment, on a créé une épreuve qui vit, c'était la 11e édition, qui arrive aujourd'hui au Lac Rose, à Dakar, un endroit absolument mythique, hein, d'ailleurs avec une étape qu'on a tous connue à l'époque, entre Saint-Louis du Sénégal. Ce sont des régions formidables. Alors la spéciale d'aujourd'hui, elle est très courte, hein. Jean-Louis Schlesser doit être en train d'en boucler pour l'arrivée au Lac Rose. Il y a presque 22 kilomètres, c'est ce qu'on faisait à l'époque, hein. Et puis ensuite, la liaison, alors j'allais dire grandiose pour tous ceux qui survivent, qui ont réussi à vaincre le désert, entre le Lac Rose et Dakar, c'est absolument génial. Écoute, c'est bien que cet esprit soit préservé. Tu vois, on a les deux facettes. On a peut-être une épreuve beaucoup plus professionnelle, avec beaucoup de matériel, avec effectivement cette année uniquement un pays. Et puis, cet Africa Eco-Race qui part de Monaco le 31 décembre et puis qui traverse le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie et qui arrive à Dakar. Donc, c'est des grands souvenirs, tout ça.
Qu'est-ce que tu retiens de cette édition de l'Africa Race, Jean-Luc? Qu'est-ce qui t'a plu et qui est-ce qui t'a plu?
beaucoup de rebondissements, parce que comme ce sont des pilotes moins expérimentés, même si à moto c'est l'Italien, on va le dévoiler le palmarès, Alessandro Botturi qui est déjà bien connu, qui est un pilote rapide, qui a triomphé de Pal Anders Ulevalsetter. Alors lui c'est multiple vainqueur de l'épreuve, un vétéran on va dire maintenant, il approche des 50 ans, mais ça veut dire que le métier est important. Et puis on a Dominique Laure et Christophe Crespo qui l'emportent en auto devant Jean-Pierre Strugo. Alors je parlais d'ancien du Dakar, je peux dire que lui je le connais depuis des décennies, Jean-Pierre Strugo et François Borsotto qui ont fait les beaux jours, c'était dans les excellents pilotes amateurs dans le bon sens du terme du Dakar. Et bien tu vois, il termine deuxième de cette épreuve. Ça m'a plu parce que le vent de l'aventure il est là. Alors là aussi on parlait d'erreurs de roadbook, il y en a sûrement eu, mais quand on a cette expérience des rallyes africains, et ben on l'accepte, même si ça te rend fou quand tu es concerné au moment où tu arrives à l'étape et où je te dis tu as vraiment envie de taper sur l'organisateur, mais la pression retombe et puis après tu n'en gardes que les bons souvenirs. Et puis l'aventure, c'est une partie intégrante de ce type d'épreuve pour moi.
Juste une dernière question sur l'Africa Race, Jean-Luc, puisque Daniel Elena, après la polémique concernant les roadbooks au Dakar dont on a parlé avec Antoine Grenapin il y a quelques minutes, a dit, alors peut-être était-ce sous le coup de la colère, qu'il se verrait bien finalement repartir avec les copains de l'Africa Race parce que les roadbooks du Dakar sont trop imprécis. Et est-ce que c'est plausible d'après toi de voir des pilotes disons stars du Dakar basculer vers l'Africa Race?
C'est tout à fait possible, bien sûr. En plus, ça part de Monaco, je le rappelle. Or, Daniel Elena, faut le rappeler, est le sportif monégasque le plus titré de tous les temps. Et oui, il est champion du monde, il est 9 fois champion du monde des rallyes, pardon, en tant que copilote, hein, aux côtés de Sébastien Loeb, mais 9 fois champion du monde. Il n'y a pas d'autre champion monégasque plus titré que lui. Donc c'est vrai que ça peut l'attirer, puisque le départ de cette épreuve de l'Africa Eco Race se déroule sur le port de Monaco. Donc lui, en tant que monégasque, il peut être tenté, effectivement. Puis on a compris cette année qu'ils étaient en privé, tous les deux, avec une Peugeot, mais de PH Sport, hein, qui est engagé à titre privé. On pourrait très bien imaginer Sébastien Loeb et Daniel Elena au départ de cette épreuve. Alors là, je préfère prévenir Daniel avant. Ne sois pas étonné qu'il y ait des erreurs de roadbook. C'est pas faire offense au talent de Jean-Louis Schlesser et de René Medge qui tracent le parcours. Mais ça fait partie intégrante de ce type d'épreuve. Il faut l'intégrer au départ.
La fin de l'Africa Eco Race, c'est donc aujourd'hui. Cette course arrivera sur le Lac Rose dont tu parlais, Jean-Luc, à Dakar, au Sénégal. 13h33, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Sport News. C'est Motors, on est ensemble en direct jusqu'à 14h. Dans un instant, Radio Paddock avec les dernières nouvelles de la F1 et une révolution de palais chez Ferrari. Mais d'abord, du ski, on part en Suisse à Adelboden où la deuxième manche du slalom ne va pas tarder à débuter. Bonjour Morgane Maury.
Bonjour Louis, bonjour à tous. Oui, elle a même débuté il y a quelques instants sous un mélange de neige et de pluie assez désagréable pour les skieurs. Il y a trois skieurs seulement qui ont terminé pour l'instant avec cette deuxième manche et ils sont cinq Français attendus dans quelques instants. Le premier à s'élancer, ce sera Jean-Baptiste Grange, suivi trois dossards plus loin par Julien Liseroux. Ils sont à plus d'une seconde de la tête qui est tenue par l'Autrichien Marco Schwartz. Et par contre, trois Français vont jouer les choses très très sérieuses. Il y a Victor Muffat-Jeandé, huitième de la première manche, à 8 dixièmes de Schwartz, et ensuite Clément Noël, cinquième de la première manche, et Alexis Pinturo, quatrième de cette première manche tout à l'heure à 10h30. Eux comptent 5 dixièmes de retard sur l'Autrichien Marco Schwartz. C'est tout à fait possible qu'ils puissent aller agripper à un podium dans une quarantaine de minutes tous les deux.
Morgane Maury en direct d'Adelboden en Suisse. Merci Morgane, à tout à l'heure. On te retrouve dès 13h45 pour le premier passage d'un Français dans cette deuxième manche du slalom. Il s'agira de Jean-Baptiste Grange. À tout de suite dans Motors avec Jean-Luc Roy, avec Angie Loata qui nous rejoint pour Radio Paddock. Ne bougez pas.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC 13h-14h Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h36 sur RMC et sur RMC Sport News Motors en direct jusqu'à 14h. Merci d'être avec nous. À 14h, vous retrouvez Christophe Cessieux pour l'intégral sport sur RMC. Juste avant Radio Paddock, Jean-Luc Roy, évidemment, tu es toujours là. Tu voulais ajouter quelque chose sur l'Africa Race dont on a parlé il y a quelques instants.
Et oui, je voulais ajouter, puisqu'on parlait de courses disputées, il s'est produit un accident qui aurait pu être extrêmement grave en vue de l'arrivée d'une des étapes il y a 4 jours. C'est-à-dire qu'il y avait Sondé Buggy, hein, qui sont les plus rapides dans cette épreuve. Williams, des buggy extrêmement performants, et deux concurrents en vue de l'arrivée. C'est souvent comme ça, on est obnubilé, fasciné par cette arrivée. On était à moins de 2 kilomètres et c'était en quelque sorte un grand prix du désert avec les deux buggy côte à côte. Et bien les deux équipages se sont accrochés un peu à la manière de pilotes de Formule 1. Ils sont partis en tonneau, les deux voitures sont parties en tonneau à pleine vitesse, à des vitesses de l'ordre de 150-160 km/h, extrêmement impressionnant. Heureusement, la solidité des buggy a fait que les équipages ont été préservés. Un seul est parvenu à passer sur la ligne d'arrivée, l'autre a été éliminé. Il était tellement détruit qu'on ne pouvait rien faire. C'est dire que parfois ce sont des véritables grands prix des sables qui se produisent. Et puis je rajoute juste qu'on devait avoir donc Jean-Louis Schlesser, mais Jean-Louis, on vient de le dire, hein, il est en train de célébrer les certainement mouvements dans la toute dernière partie de son rallye, l'arrivée au Lac Rose, c'est ce qui doit être en train de se produire en temps réel actuellement dans les faubourgs de Dakar. Et parfois c'est bizarre, on l'a en plein désert, je l'ai eu avant-hier, mais c'est plus compliqué de l'avoir aux approches des grandes villes, c'est comme ça.
On quitte le désert, on retourne sur les circuits, c'est parti pour Radio Paddock.
RMC Motors. World champion. Oh my god, I can't believe it. Thank you so much guys. Radio Paddock.
Avec Engie Louata, salut Engie.
Salut Louis, salut Jean-Luc, salut tout le monde. Salut,
on Engie. Commence par la F1 avec du changement, c'est important, à la tête de Ferrari.
Ouais, on connaît le nom du remplaçant de Maurizio Arrivabene. Il a 49 ans, je fais des efforts, t'as vu.
C'est
hein.
Magnifique.
Il a 49 ans, il s'agit de Mattia Binotto. Il était déjà dans l'écurie Louis Jean-Luc hein, en tant que directeur technique. Apparemment, c'est plus ou moins la victoire de Mattia Binotto sur Maurizio Arrivabene, puisque les deux hommes étaient ces dernières années en concurrence depuis plusieurs années. La subtilité, c'est que pour l'instant, Mattia Binotto, il garde également ses responsabilités de directeur technique. Alors, est-ce que c'est une bonne nomination? Est-ce qu'il va pas avoir trop de responsabilités maintenant? Est-ce que ça fait pas un peu de désordre chez Ferrari, tout ça? Jean-Luc.
L'histoire de la Scuderia, elle est toujours faite de ces rebondissements, tu sais. C'est le casino, comme disent nos amis italiens. Il y a une telle pression autour de cette équipe mythique qu'effectivement, les patrons d'écurie ont parfois du mal à résister. Alors, il faut pas trop blâmer, évidemment, Maurizio Arrivabene. On peut le blâmer parce qu'il n'a pas gagné. Évidemment, c'est le premier des perdants. On a fini, notamment ces deux dernières années, en partie pour des fautes, il faut quand même le rappeler, de Sébastien Vettel. Maintenant, comme évidemment on tire sur le pianiste, hein, on dit que c'est de la faute d'Arrivabene qui n'avait pas su mettre les conditions autour de Vettel pour qu'il donne son meilleur. Alors tu l'évoquais il y a un instant, Engie, c'est vrai que Mattia Binotto, lui, c'est un pur produit de la Scuderia Ferrari. Il est chez Ferrari depuis 1995, donc 23 saisons. C'est un pur technicien et c'est lui qui a ramené le moteur dans ces nouvelles conditions depuis 2014, quasiment ou complètement au niveau du moteur Ferrari. On ne peut rien lui reprocher de ce côté-là. Maintenant, tu sais, il y a tout un aspect politique qu'on évoque évidemment, non seulement dans la Formule 1, parce qu'il y a des relations avec Liberty Media, le détenteur des droits commerciaux, avec la FIA pour les droits sportifs. Donc il y a tout un aspect de la gestion d'une équipe de Formule 1 que Mattia Binotto certainement ne connaît pas et qu'il va découvrir. Ça n'est pas de la pure technique, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a un aspect politique également de communication. Pour en rajouter une couche, c'est vrai que Arrivabene avait un peu tiré le rideau de fer, effectivement, sur la Scuderia. Il contrôlait la communication, il n'y avait pas de petits bruits dont la presse italienne est si avide qui circulait. Alors ça va être une autre époque. On rappelle qu'en 5 ans, effectivement, il y a eu 4 directeurs de la Scuderia Ferrari. Celui qui a duré le plus longtemps, c'était quand même Arrivabene. Mais il a du pain sur la planche, hein, Binotto.
Mais est-ce que Jean-Luc, la Scuderia Ferrari n'a pas besoin de quelqu'un de plus charismatique, de quelqu'un qui parle davantage au monde entier et au monde du sport auto en particulier? Parce que Mattia Binotto, il ne s'agit pas de contester sa compétence, mais c'est un peu Mister Nobody quand même. Personne ne le connaît, cet homme-là.
Ah oui, ça c'est. Tu as raison, Louis. Effectivement. Alors. Là aussi, c'est un choix, hein. C'est un choix qui dépasse, je dirais presque, parce que tu sais, Ferrari, il y a des implications à très haut niveau, hein. Il y a Sir John Elkann, maintenant, qui préside aux destinées du groupe et de la Scuderia Ferrari. On sait que, malheureusement, il a dû y avoir des recompositions. On est en train de voir, en fait, une organisation qui se met en place et qui était prévue, finalement, par Sergio Marchionne, qui a disparu au mois de juillet, il faut le rappeler, et qui gérait directement, lui, la Scuderia Ferrari. Il souhaitait voir Charles Leclerc au volant d'une monoplace en 2019, eh bien Charles Leclerc est arrivé, donc à la place de Kimi Raikkonen. Il souhaitait voir Mattia Binotto aux commandes de l'écurie. Mattia Binotto est en train de prendre le pouvoir à la Scuderia. Donc c'est quelque part l'héritage de Sergio Marchionne. Et est-ce que c'est un bon choix? Ben évidemment, seul l'avenir le dira. Mais je rappelle que aucune autre équipe de Formule 1, et surtout pas Mercedes, hein, qui est dirigée par un seul homme, Toto Wolff, même si on avait évidemment Niki Lauda en tant que président non exécutif, à qui on souhaite toujours évidemment de un retour sur les circuits. Niki Lauda, on sait qu'il a été opéré très très lourdement pendant l'été, mais ça veut dire une seule tête chez Mercedes qui décide de tout, Toto Wolff, et puis un bataillon d'ingénieurs innombrables qui travaillent sur le sujet. C'est sûr qu'on est plus dans la sérénité du côté de l'équipe allemande que du côté de l'équipe italienne.
Oui, ça a un peu toujours été comme ça aussi, puisqu'il y a forcément toujours plus de passion qui entoure Ferrari. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Jean-Luc, sur le fond, de nommer à la tête de l'exécutif de la Scuderia un homme qui est un pur technicien? Est-ce que ça veut dire qu'on va vraiment se réorienter vers de la fabrication hyper minutieuse d'une voiture, ne se concentrer plus que là-dessus et éliminer un petit peu ce dont on parlait, mais qui fait aussi la magie de Ferrari, c'est-à-dire un environnement qui peut parfois polluer les performances sportives?
Tu as raison, parce que c'est de la pure technique, effectivement. Alors, c'est ce que j'évoquais il y a un instant, ce volet politique, y compris de gestion des hommes, on ne peut pas l'occulter, notamment entre les deux pilotes, et peut-être l'erreur coupable, et on sait quelle symbolique ça représente, quel symbole, c'était à Monza, hein, tu t'en rappelles, bien sûr. À Monza, où là, on a laissé les deux pilotes se battre, ou plutôt, on a paradoxalement avantagé Raikkonen qui a décroché la pole au détriment de Vettel, et on a vu tout ce qui a suivi, c'est-à-dire dans la deuxième chicane, l'accrochage avec Vettel et Hamilton, entre Vettel et Hamilton plus exactement, qui a fait que Vettel, qui était le seul pilote de la Scuderia en bataille pour le titre, termine quatrième de ce Grand Prix. Ça, c'est le vrai tournant. En plus, devant les tifosi, devant le public italien, devant la presse italienne, là, c'est une mauvaise gestion à l'évidence. Alors, c'est vrai que c'est moins poétique, c'est moins drôle, mais le casino que j'évoquais il y a un instant, là, il était au sein de la Scuderia Ferrari. Après, la suite, eh ben, elle est logique, avec un Vettel déstabilisé qui commet erreur sur erreur. Bon, il avait déjà commis celle du Nürburgring, que je ne vais pas occulter, où il sort tout seul en tête, alors que ce Grand Prix est pour lui, et c'est son rival, c'est Hamilton qui l'emporte. On va dire qu'on est à une erreur partout entre Vettel et la gestion humaine de l'équipe. Ben, on aurait pu peut-être aussi virer Vettel, hein, on peut tout envisager dans la vie. On a viré Arriva Bene et on essaie de mettre Vettel, de placer Vettel dans un environnement qui soit plus favorable. Alors je dirais juste une chose, hein, c'est que attention à Charles Leclerc qui a les dents longues et qui va certainement bousculer et obliger Vettel à aller chercher dans ses ultimes retranchements.
Un dernier mot là-dessus, Jean-Luc, parce que c'est quand même vraiment une info importante. Est-ce que, à ton avis, ça peut aussi être un choix de Sébastien Vettel? On sait qu'il pèse énormément chez Ferrari, qu'il a beaucoup d'influence auprès des décideurs et des patrons de la Scuderia. Est-ce que lui a pu dire, il nous faut faire monter le directeur technique pour nous assurer que ce soit lui qui ait la main sur l'ensemble du processus de fabrication de la voiture et d'utilisation de la voiture?
Bien vu, Louis, parce qu'il y a eu effectivement des propos d'Arriva Bene et qui ont fait mal à Vettel et qui ont surpris. À un moment, il a dit, il faut aussi, justement, après les erreurs, les quelques erreurs, les multiples erreurs de Vettel, il a dit, il faut que Vettel justifie sa place au sein de la Scuderia. C'est quasiment un crime de lèse-majesté quand on dit à un quadruple champion du monde de Formule 1, leader incontesté de l'équipe, qu'il doit justifier sa place au sein de la Scuderia. Tu imagines un petit peu les réactions de Vettel. Là, la rupture était patente entre les deux hommes, et c'est évident qu'il s'entend à l'inverse très très bien avec Mattia Binotto. On peut espérer, pour la compétitivité de la Scuderia et pour l'intérêt du championnat du monde en 2019, la Scuderia repartit, et c'est clair, sur des rails nouveaux, avec une ambiance totalement différente. Maintenant, je le répète, il n'y a pas que l'aspect sportif dans la gestion d'une équipe de Formule 1. Il y a le côté humain, et puis il y a le côté relationnel, puisque tu sais qu'on est en pleine gestation des règlements pour 2021, c'est-à-dire les futurs accords Concorde. Et là, Mattia Binotto, il va falloir qu'il se mette à la table et qu'il passe des heures et des heures à négocier avec ses alter égaux, avec la FIA, avec Liberty Media. Ça, c'est peut-être un aspect qui va le passionner un peu moins et qui va malheureusement le détourner du travail sur la monoplace. C'est inévitable.
Il fera ses débuts, Mattia Binotto, en tout cas ses débuts en public, lors des essais à Barcelone, hein, qui se dérouleront comme avant chaque saison, dans un mois maintenant, un petit peu plus d'un mois maintenant,
c'est ça,
pour la première semaine de test. Alès. Dans un instant, on part en Suisse. Hein. Adèle Boden, vous ne manquerez rien du passage des Français lors de la deuxième manche du slalom. Avant cela, on enchaîne, Angie Loita, avec toi sur Radio Paddock. Et l'année 2019 qui va marquer toujours en F1 de sérieux changements aérodynamique.
Ouais, Louis, c'est dans cette série, tu sais, ce qui va changer au 1er janvier 2019 qu'on nous fait à chaque début d'année. Il n'y a pas que le prélèvement à la source, il y a aussi les modifications des règles aérodynamiques. Elles ont été validées l'été dernier par la FIA. Il y aura notamment, pour encourager les dépassements, un aileron avant qui sera simplifié, un peu plus épuré, un peu plus large, un aileron arrière qui sera plus grand et plus profond, et puis les écopes des freins qui seront privées d'appendices aérodynamiques. Bref, on favorise par toutes ces mesures-là les dépassements. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas?
On va poser la question à Jean-Luc dans une seconde avant
ça. Mais d'abord, Morgane.
Exactement. D'abord le ski, d'abord Morgane Maury à Adèle Boden. Jean-Baptiste Grange s'apprête à s'élancer, Morgane.
Oui, 17e de la première manche, le skieur de Valoire. Il s'élance avec seulement 10 centièmes d'avance, un souffle, un dixième sur Elia Kolega, le croate qui a signé le premier temps de référence. Alors il neige fort sur cette piste d'Adèle Boden et Jean-Baptiste Grange, tout à l'heure, qui avait fait un haut de parcours assez intéressant avant de craquer dans le mur. Et il est très bien parti, Louis. 4 dixièmes d'avance au premier intermédiaire pour Jean-Baptiste Grange dans son style si fluide. Il est placé. C'est un garçon qui, en ce moment, pour ses derniers jours en carrière, il cherche à mettre la bonne intensité à chaque course, mais c'est difficile de trouver le bon curseur. Et en ce moment, il le met au bon endroit, le curseur. 45 centièmes d'avance avant d'entrer dans ce mur final d'Adèle Boden, encouragé par le public. Légère glissade. Il y a la main gauche qui est venue toucher la neige et Jean-Baptiste Grange, tel un chat, il est revenu sur ses skis. Nouvelle petite faute, mais la vitesse est là pour Jean-Baptiste Grange. Et dans les enceintes, comme à chaque fois que c'est un Français, c'est Plastic Bertrand. Il a perdu du temps. Louis, il est derrière, cette fois-ci derrière Kolega pour 17 centièmes. Il va en terminer dans un instant. Jean-Baptiste Grange, le passage de la double. Il va passer sous la banderole d'arrivée. Le skieur de Valoire, il essaye de terminer aussi fort qu'il peut, mais il est derrière, 23 centièmes de retard sur Kolega. Grange deuxième de ce classement provisoire à venir dans trois dossards. Julien Liseroux et ensuite Victor Muffat-Jandé, Clément Noël et Alexis Pinturo placés eux pour jouer le podium.
Merci Morgane Maury en direct d'Adèle Boden pour RMC. Évidemment, vous ne manquerez rien des passages des principaux engagés français dans ce slalom en Suisse. On revient à Radio Paddock avec Angie et avec toi Jean-Luc. On était sur les nouveautés aérodynamiques pour la saison 2019 en Formule 1, qui sont là pour favoriser les dépassements. Est-ce qu'à ton avis, c'est artificiel, comme avait pu l'être le DRS il y a de cela quelques années, ou est-ce que ça peut donner lieu à de vrais changements et à de vraies
courses,
oui, voilà, de vraies courses plus spectaculaires? Merci Angie.
Ouais, ça doit donner lieu, Louis Angie, ça doit absolument donner lieu, parce que l'un des problèmes de la Formule 1 actuelle, c'est effectivement cette absence de dépassement naturel. Et tu l'as bien dit, le DRS a été inventé, en quelque sorte, artificiellement, pour permettre à des pilotes plus rapides de prendre l'avantage en bout de ligne droite, puisqu'il y a un effacement, on le rappelle, d'une partie de l'aileron arrière qui fait gagner entre 10 et 15 km heure et qui permet de dépasser. Donc c'est clair que ça, c'est artificiel. Donc là, on refond le règlement et cet empilage qui était grotesque, qui était ridicule, qui était tout ce que tu veux, de petites lamelles sur l'aileron avant, c'était devenu du délire. Surtout que ce qui était rigolo, c'est quand il y avait contact entre des monoplaces, eh bien on voyait qu'avec un aileron un peu défoncé, les pilotes allaient quasiment aussi vite. C'est bien la preuve que tout cet empilage, non pas ne servait à rien, mais ne sert que en qualification, beaucoup moins en course, puisqu'on sait que les pilotes gèrent les pneumatiques, gèrent la conso, gèrent la stratégie. Donc ça va redonner peut-être un peu de naturel et ça va réduire effectivement toute cette partie aérodynamique qui est due aux ailerons, trop complexe, à cet empilage. Bah écoute, je vais oser dire, il faut se tourner vers l'IndyCar, hein. Tout le monde peut aller sur un site, regarder à quoi ressemble une monoplace d'IndyCar, qui est plus pure aérodynamiquement, ou à quoi ressemblaient les Formule 1 des années 80 ou 90, pour reprendre une extrême. Bah c'est vers ça qu'on doit tendre en Formule 1, c'est-à-dire moins d'artifices aérodynamiques supérieurs, d'empilage grotesque qui coûte en plus, pardonnez-moi l'expression, la peau des fesses, parce que ce sont des centaines, des milliers d'heures en aéro, en soufflerie, pour essayer de caler un petit bout d'aileron sur le côté. Enfin, c'est grotesque, ça ne sert à rien. Donc c'est formidable qu'on allège tout ça, qu'on supprime tout ça, et qu'on ait des monoplaces qui puissent se rapprocher les unes des autres, et surtout que les pilotes puissent se dépasser.
Angie, voilà un pilote qui, lui, en a terminé avec la Formule 1, c'est Fernando Alonso qui a reçu une invitation.
Ouais, il a reçu une invitation, ça confirme l'intérêt qu'il a pour s'essayer sur les dunes après ses essais de Daytona. L'invitation, elle vient de Nasser Al-Attiyah, donc Alonso va tester la Toyota Hilux du Qatari. C'est logique, c'est surprenant, c'est une bonne chose, Jean-Luc?
Ah, c'est une excellente chose. Alors, tu sais, il y a un nom en trois syllabes, Toyota. Toyota, puisqu'Alonso est un pilote Toyota. On le sait, bien sûr, depuis sa victoire aux 24 heures du Mans, il s'est tourné vers le WEC en parallèle, entre guillemets, de son engagement en Formule 1, devant le manque de résultats chroniques de McLaren. Et vraiment, là, je crois qu'il était usé hein, par ses saisons pénibles en Formule 1, où il se battait péniblement pour des places aux alentours de la 15e position sur la grille. Donc, il avait besoin de retrouver de la motivation. Il l'a trouvé en endurance. On sait qu'il est à l'assaut du triptyque. Il va repartir à l'assaut des 500 miles d'Indianapolis, ce qui est extraordinaire et ce qui est génial l'an prochain, à la fin du mois de mai. Là, il sera libre de son programme, comme il l'avait fait en 2017. Il avait même, il était resté 27 tours de mémoire au commandement de cette épreuve. Donc là, ça veut dire que Fernando, c'est un pilote libre. Il a un planning libre. Et Toyota, puisque à l'heure actuelle, le leader Alatilla pilote une Toyota, eh bien, Toyota a demandé à l'équipe qui est majoritairement sud-africaine de mettre une machine à disposition de Fernando qui est très intéressé. Donc à l'issue du Dakar et après les 24 heures de Daytona auxquelles Fernando, on l'évoquait dans Motors la semaine dernière, va participer, eh bien il pourra tester et l'aventure humaine pourrait le tenter, même s'il dit qu'évidemment il n'a jamais fait ça. Mais je pense qu'un pilote du calibre d'Alonso, il est bon partout, c'est clair.
Dans un instant, on parle du WRC avant le rallye de Monte Carlo. D'abord, nouveau détour par la Suisse. Adèle Boden, c'est Julien Liseroux qui désormais s'élance, Morgan Morin.
Oui, le vétéran de l'équipe de France, 39 ans, il est parti avec 17 centièmes d'avance sur le croate Collega, pas grand chose, comme Jean-Baptiste Grange, il doit prendre beaucoup de risques. Il est parti extrêmement fort, Julien Liseroux, avec 55 centièmes d'avance au passage du premier radar. Il joue gros, Julien Liseroux, parce qu'il a fait un mauvais résultat à Zagreb, il n'a pas fini sa deuxième manche, et s'il veut aller au championnat du monde dans un mois à Auray, en Suède, il aurait bon goût de claquer un bon résultat. Deuxième passage devant le radar pour Julien Liseroux, c'est encore bon, ça allume du vert, 27 centièmes d'avance pour lui, le passage dans ce mur final à 60% d'inclinaison. Il passe bien, il enroule bien les piquets pour l'instant, Julien Liseroux. On le sent assez prudent quand même à ce passage, parce que vous êtes rapidement aspiré par le bas. 0,077 centièmes d'avance au dernier intermédiaire pour Julien Liseroux sur le chrono de Collega. Va falloir finir comme une bombe pour se placer devant le skieur croate. Il est encouragé par la vingtaine de supporters français présents à Adèle Boden. Il en termine, Julien Liseroux, et c'est du rouge. Il est en troisième position, 52 centièmes derrière Collega. Deuxième place pour Jean-Baptiste Grange. Julien Liseroux qui salue le public, qui fait une révérence, pardon. Il ne sera pas sur le podium de ce slalom, même s'il est troisième provisoire pour l'instant. À venir les meilleures chances, Muffat Jandé 8e de la première manche, Clément Noël 5e de la première manche et Alexis Peintureau 4e de la première manche.
Ça sera à suivre sur RMC juste après 14h. Merci Morgan Maury, à tout à l'heure. On conclut Radio Paddock Angel Ouattara avec le WRC. On connaît les engagés pour le Monte Carlo qui démarre dans 10 jours.
Ouais, dans 10 jours. Les forces en présence, 11 WRC de dernière génération. Sébastien Loeb, septuple vainqueur à Monaco, Sébastien Ogier également, Otanak est là, Jari Matti Latvala aussi. Qui peut inquiéter nos deux Français?
Jean-Luc. Écoute, c'est très ouvert. Hein. D'abord, ce changement effectivement d'équipe de M Sport à Citroën pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, ça c'est formidable. Ça va évidemment représenter un suspense. Là maintenant, l'équipe française, elle doit gagner non seulement beaucoup de rallyes, mais elle est en lice pour la victoire finale. Tu as évoqué Ott Tanak il y a un instant. C'est vrai qu'il était chaud comme de la braise, lui aussi. Et puis on n'oublie pas.
Je t'ai dit les deux qui étaient sur le podium l'année dernière.
Absolument. On n'oublie pas Thierry Neuville qui passe à côté de ce titre depuis 2-3 saisons, qui doit concrétiser. Alors, les neiges, on l'espère en tout cas, parce que c'est toujours une tradition et on espère qu'on va trouver la neige sur les hauteurs du Monte Carlo. C'est un rallye mythique hein, qui ouvre la saison de WRC pour Sébastien Loeb et Daniel Elena, tu l'as dit, qui viennent jouer les jokers, entre guillemets, pour cette puissante équipe Hyundai. Et ça aussi, c'est un transfert formidable. Non, c'est plein d'inconnus. Ce championnat du monde WRC et cet affrontement au sommet va être formidable dans les neiges du Monte Carlo, surtout après quelques jours et les sables du Dakar au Pérou. Non, écoute, c'est absolument génial et là aussi on se pourlèche les babines, il n'y a pas d'autre mot.
Et on en reparlera évidemment dans Motors. Merci Jean-Luc Roy, à dimanche prochain.
Salut Louis.
Merci Angel Ouattara pour Radio Paddock, 13h55. Merci d'avoir été avec nous dans un instant sur RMC. Christophe Cessieux et l'intégral sport du rugby et du ski, la suite de la deuxième manche du slalom d'Adèle Boden et puis Exeter Castres en Champions Cup. Bonne journée à vous.
RMC Motors avec Motorsport TV.